Vous écoutez
RMC.
RMC.
I am very happy to be in the big club Tottenham.
Welcome, Silvinho. Are you okay? And are you happy to be
here? I want to win here, you know, before. And after that, we will see. Or we'll go to fish.
Hein? RMC, jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Thibaut Giangrande.
Thank you to be here, everybody, until minuit et demi avec Daniel Riolo et Kevin Diaz. On vous attend, bien évidemment, au 32-16. Si vous voulez réagir dans quelques instants, les drôles de dames, Paulo Breitner, Julien Laurence ont disputé les coupes, les cups également, avec une grosse surprise en Angleterre et la victoire de United. Mais concluons sur cette finale de Coupe de France. On a fait l'analyse sportive. Ce sera dispo en podcast dans quelques minutes si vous nous rejoignez. On aurait aimé ne pas parler de ce qui suit, mais on est bien obligé après les événements dont vous avez forcément entendu parler aujourd'hui. La fin de match pour l'instant semble se passer correctement. On reste vigilant. 1000 policiers et gendarmes mobilisés pour que les supporters lyonnais et parisiens puissent rentrer sans incident. Ce qui s'est passé, c'était en fin d'après-midi ou quelques heures. Avant le coup d'envoi, oui, il y a un bus lyonnais effectivement qui a pris feu. Des supporters des deux camps se sont affrontés à un péage sur l'A1, une petite heure de route de Lille. Donc le bus lyonnais a pris feu. Une vingtaine de blessés légers recensés. Un bus lyonnais en fait est arrivé à cet endroit avec du retard. Il n'aurait pas dû être là à ce moment. Et des incidents s'en sont suivis. Daniel, Kevin, comment vous réagissez à ces incidents ce soir?
Écoute, encore une fois, hein, malheureusement, c'est des images qui sont toujours. Moi, je m'imagine à ce péage avec mes enfants pour aller voir un match de Coupe de France, comme mon fils aurait bien aimé. Je peux te dire que ça donne pas envie d'emmener tes enfants, même à un match comme ça délocalisé. Donc forcément, après, je sais pas exactement. On a compris qu'il y a eu un problème d'itinéraire, un problème d'horaire, etc. Mmh. Mais il n'empêche quand même que, encore une fois, la responsabilité individuelle de gars qui décident de descendre d'un bus parce qu'il y en a un qui n'était pas censé croiser. C'est quand même un gros problème aujourd'hui de voir encore ce genre d'image.
Daniel.
Bon, donc on a eu les services de renseignement qui avaient classé ce match en danger 5. Depuis 5. Plusieurs jours maintenant, on savait que c'était excessivement dangereux parce que supporters du PSG mélangés avec les Lyonnais, un peu de Marseillais, l'équipe de l'OM en gambardella, tout ça excitait beaucoup la folie des sauvageons qui étaient prêts donc à s'affronter.
D'ailleurs, je l'ai pas dit, petite parenthèse, il y a même eu des incidents pendant le match de Gombardella de l'OM en milieu d'après-midi où il y a eu des jets de projectiles.
La bêtise absolue de jeter sur un gamin, peu importe que ce soit un adulte ou un gamin, un projectile. Bref, donc on a ce bus qui arrive derrière celui du PSG. Donc la chronologie semble indiquer que ce sont les supporters lyonnais qui sont descendus pour aller en découdre, les autres se sont défendus. Moi, dans ces cas-là, je vois que des sauvages. Hein. Évidemment, il faut toujours dire qui provoque en premier. Donc, le résultat et l'ensemble, ça donne encore un drame provoqué par des supporters dans un contexte qui ne semble pas devoir changer depuis maintenant 3-4 ans. Puisque chaque déplacement de supporters donne lieu à des problèmes plus ou moins graves. Et des graves, on en a eu. Évidemment, le Nantes-Nice. Évidemment, Marseille-Lyon. Il y en a eu beaucoup d'autres. Hein. Il y en a eu beaucoup d'autres. Hein. On va pas faire la liste du Nantes-OM, du OM-Ajaccio, du déplacement de Bordeaux également en Corse. Enfin, bon, il y en a eu des tonnes et des tonnes. On a l'impression que on ne peut plus assister à un déplacement de supporters en toute tranquillité. Alors, on me dira que c'est une minorité sur la quantité qui sont réalisées. Ok, mais même si c'est une minorité, ça enlève pas la gravité. Donc, la question qui va forcément se poser, comme à chaque fois, d'abord c'est les responsabilités, et je pense qu'on aura le petit cirque habituel des gens qui vont se renvoyer la responsabilité. D'abord, entre supporters, c'est pas moi, c'est lui qui a commencé. Les clubs ne vont rien faire et rien dire.
Aussi, le cirque Daniel aussi, de ceux qui disent « Ah, mais vous voyez, ça se passe pas que chez nous, ça se passe aussi ailleurs. »
Bien sûr, l'important, c'est de se défausser. Ridicule. Dans ces cas-là, l'important, c'est de se défausser. Et personne ne prend ses responsabilités sur ces dossiers. La Ligue, on s'en souvient, n'avait quasiment rien dit à l'époque du Marseille-Lyon, avait reporté le match, ok. La Fédé a mis beaucoup de temps à réagir, il y a eu un communiqué ce soir, Diallo a pas voulu parler au début et tout, peut-être il va le faire ce soir. De toute façon, je vois pas bien ce qu'il va pouvoir dire.
La FFF condamne avec la plus grande fermeté.
Oui, j'ai vu le communiqué, voilà. Bien sûr.
Non, mais je vous lis pas parce que c'est ça.
Donc, on va continuer à se défausser. Les clubs qui sont en lien avec leur association de supporters et qui sont en mesure de dialoguer avec eux, puisqu'ils dialoguent en permanence sur tout un tas d'autres choses, hein, sur les banderoles, les fumis, les places, les cadeaux à droite à gauche. Et bien, on sait que la communication, elle est étroite au PSG avec les supporters, tout comme à Lyon, tout comme à Marseille. Faut pas nous faire croire que les gens ne se connaissent pas. Ils se connaissent tous. Donc, quand est-ce qu'on va prendre de réelles décisions? Des décisions qui, pour moi, ne doivent faire aucun doute. La fin des déplacements de supporters, terminée. Évidemment, je vais me prendre sur le dos d'abord les supporters qui vont m'insulter sur les réseaux, avocats des associations de supporters qui vont dire qu'on est dans un pays de droit et qu'il faut gérer la libre circulation et que les flics ont qu'à bosser, comme si les flics, évidemment, n'ont que ça à faire, vu comme ils sont sollicités en France un petit peu partout. Ou alors ce sont les clubs qui payent les forces de police. Elles le font en partie, mais qu'elles le fassent complètement. Et que s'il y a des dégâts, ce sont les clubs qui payent. Par exemple, le bus, c'est le club qui paye. Une station-service saccagée, c'est le club qui paye. Les dommages causés, c'est le club qui paye. Je ne sais pas comment on évaluera ce que ça fait comme dégâts, une autoroute bloquée dans les deux sens, parce que c'est quand même pas rien. Si tu avais prévu de voyager et que ton problème, c'était pas le foot, c'était juste que tu avais besoin de prendre la A1, on a eu une autoroute bloquée dans les deux sens. Moi, ça arrive que dans les films, hein, logiquement. Hein. Mais bon, voilà. Les sanctions sur ceux qu'on arrive à choper et identifier, beaucoup plus lourdes. En Belgique, tu as 1000 interdits de stade, nous, on en a 300. Sur un championnat plus petit, un pays plus petit, moins de gens. Je ne sais pas si on se démerde réellement bien sur les interdictions de stade. Les déplacements, je le redis, parce que à chaque fois, ils sont attaqués. Les décisions de la préfecture sont toujours attaqués et souvent c'est gagné et à chaque fois ça donne lieu à des fêtes du genre nous ne nous empêcherons pas de circuler, nous sommes dans un pays de droit, là, le machin et tout, très bien, ok, super, c'est très bien, ouvrons le champagne. Sauf que la réalité des faits, c'est qu'on a vu aujourd'hui une journée de sauvage, mais réellement de sauvage. À 60 jours des Jeux Olympiques, on avait déjà eu la finale de la Ligue des Champions au Stade de France qui avait été une catastrophe monumentale aux yeux du monde entier. Là, on est à 60 jours des JO. On a eu 2 ans de catastrophes partout, quasiment à chaque fois que t'as eu des déplacements de supporters. Et on va rien dire, on va rien faire. Il y a eu un moratoire d'un mois après Marseille-Lyon sur les déplacements de supporters. Ça a repris. Écoute, moi, ce soir, honnêtement, les Lyonnais qui étaient dans le bus et qui sont descendus avec les Parisiens, à un moment, ils sont remontés dans le bus. Peut-être pas dans celui qui a cramé, mais dans les autres pour aller au stade. Moi, je leur aurais pas permis d'accéder au stade. Non. J'aurais demandé, le préfet aurait dû demander.
Ah, mais là, pour le coup, tu fais pas la différence. Et s'il y en a 10 qui sont descendus du bus, tu vois, les 50 qui sont pas descendus.
On a rien à foutre.
Ah oui, mais là, tu les sanctionnes. C'est injuste, là.
Sauf que la prochaine. Oui, mais ça doit être tenu, une association. Ça doit être tenu. Le bus, il est géré.
Tiens, je voudrais qu'on prenne Mohamed, les gars.
Dans les associations de supporters, c'est tenu. Il y a des leaders. Et ça les arrange bien d'être leaders quand tout va bien. Quand il faut organiser machin et quand il faut organiser les voyages. Parce que c'est organisé, les voyages, c'est organisé par des gens et tout le monde doit être responsable. Donc si tu dis avant, s'il y a des conneries, on va tous morfler, je pense que ça obligera les gens à se tenir à carreau. Donc moi, je te dis, les deux, tu les fais remonter dans le bus et tu leur dis, on va rester sur l'aire de repos, entouré par les flics pendant toute la nuit. Et puis vous repartirez quand le match sera terminé.
Les gars, il y a Mohamed qui nous appelle au 32-16 et qui était sur place au moment des faits, c'est ça? Salut Mohamed.
Bonsoir. Désolé pour ma voix, mais j'étais au stade. Alors, malheureusement ou heureusement, je sais pas quoi dire, mais je suis arrivé. Alors, j'étais sur la A1, je suis avec mes 3 enfants, je vous explique. Moi, j'aurais fait plaisir, c'est mes enfants, 6 ans, 11 ans et 14 ans, ma grande. J'étais sur la A1 à 18h et j'arrive au péage, donc je vois toute une série de bus. Par curiosité, les enfants, ils ont voulu regarder.
Attends, excuse-moi, t'étais en voiture personnelle avec tes enfants?
Je suis sur le retour.
Ouais.
Et donc, j'arrive et je vois le bus lyonnais était exactement à mes côtés. Il y a un bus lyonnais et donc on regarde, parce que les enfants ont regardé, c'est des Parisiens ou des Lyonnais. Et on voit les supporters presser le chauffeur d'ouvrir la porte. et tous les supporters lyonnais sont descendus à ce moment-là. Et ce qu'ils n'ont pas compris, parce que moi je les avais vus avant, parce que je les ai dépassés, ils n'ont pas compris que c'était toute une série de bus parisiens.
Ils pensaient qu'il n'y avait qu'un bus parisien, c'est ça ?
Ils pensaient qu'il n'y avait qu'un bus parisien parce qu'il s'est mis sur le côté. Et tous les bus se sont étalés sur la barrière de péage pour pouvoir passer les uns après les autres. Et moi, j'ai vu les policiers arriver. Ils ont commencé. Et voilà. Moi, j'ai forcé la barrière. Je n'ai pas payé mon péage sur l'allée. J'ai forcé la barrière parce que j'ai eu peur. J'ai mes enfants. Donc moi, la barrière, le péage, je m'en moquais. Ce qui comptait, c'était mettre mes enfants à l'abri. Tous les CRS arrivaient avec les gaz lacrymogènes. Et voilà. Et je suis passé à ce moment-là. Voilà. Et donc pour rétablir la vérité, ce qui s'est passé aujourd'hui, et moi, je suis supporter parisien, historiquement, il n'y a pas de souci. Je sais, des fois, qu'il y a des débordements. Mais là, c'est un bus lyonnais. Et ce qui s'est passé ensuite sur le parvis du stade, moi, j'étais en tribune un peu latérale, côté parisien. J'ai vu trois supporters parisiens qui ont traversé, qui étaient du mauvais côté. Alors, trois supporters, je vais le dire honnêtement, ils étaient blacks. Et ils sont fait lyncher par des supporters lyonnais cagoulés. Ça, c'est inadmissible. Et dont il y avait des gamins avec eux. Il y avait un gamin de 14-15 ans à peine. Voilà, qui se sont fait lyncher. Voilà, donc on peut dire ce qu'on veut sur les lyonnais. Malheureusement, ils ne savent pas se tenir. Moi, j'ai fait des déplacements dans ma jeunesse, là, j'en fais plus. Là, j'ai voulu faire plaisir à mes enfants et j'ai eu la peur de ma vie au péage. Je vous ai dit, j'ai forcé le péage. Voilà, parce que les Lyonnais ne savent pas se tenir. Je vous promets que les gens ne savent pas se tenir.
Alors, bon, sur les Lyonnais, c'est ce que tu dis ce soir. Après, il y a eu beaucoup d'incidents avec Mohamed. Bien sûr. Après, juste ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu beaucoup d'incidents cette année en France. Daniel en parlait tout à l'heure avec beaucoup de clubs où il n'y avait pas Lyon à chaque fois.
Mais pas de Gaulle, on sait ce que c'est. Faut dire les choses, Daniel. Tu peux le dire. Les bad Gaulle, ce sont des fachos. Voilà.
Alors pas tous, probablement.
C'est une assoce qui est assez estampillée, ouais. C'est pas un secret, on le sait. Je crois qu'on le sait depuis longtemps. Hein.
Voilà. C'est des ratonnades comme il y a eu au Paris Saint-Germain. Moi j'ai 44 ans, je sais comment ça se passait avant. Je sais, on sait les Golden Boys. On sait comment ça s'est passé. Daniel, tu sais.
Juste sur
le déroulé de la soirée. D'accord. Ce que dit Mohamed, c'est effectivement ce qu'a dit ce soir le préfet du Nord quand il a expliqué ce qui s'était passé. Ça confirme
sur le déroulé. On sait que ce sont des Lyonnais qui sont descendus, qui ont attaqué. Il n'y a aucun problème. Je pense que ça, c'est désormais complètement établi. Maintenant, la sauvagerie, elle est partagée, peut-être pas en nombre et tout. Ce sont des Parisiens qui ont jeté un projectile sur le petit gamin marseillais qui était dans les buts dans la finale de la Gambardella. Donc, malheureusement, ça ne retire pas. Évidemment qu'il faut établir les raisons, les causes et tout ça, mais ça ne me fera pas changer d'idée. Sur le principe de base, c'est pour moi la fin des déplacements de supporters. Je pense que là, on en a trop vu maintenant.
Mohamed, merci pour ton témoignage. Faut conclure.
Moi, j'ai des enfants, je leur ai dit, parce que je sais comment ça se passe. Je leur ai dit, vous mettez une veste, vous mettez un cahouette sur votre t-shirt. C'est grave d'en arriver là quand même.
Oui, bien sûr.
Ah ouais. Voilà. C'est pour ça que comme c'est grave et qu'on ne sait plus se tenir et que c'est impossible, on se déplace plus, c'est fini.
Mohamed, on va être pris par le temps.
Tu vas voir ton équipe quand elle joue dans ton stade et voilà.
Mais la finale, on fait comment
On n'est pas capable. Tu veux reprendre le risque?
Je sais pas.
Mais il y a toujours des incidents. Moi j'ai vu, il y a eu un PSG-OM au Stade de France, mais. Alors, la sécurisation est plus simple sur Paris, tous les services d'ordre, les policiers expliquent ça. Mais j'y étais, j'ai vu la tension et ce que ça demandait en sécurité. C'est hallucinant ce que ça demande en dispositif. Alors, ils sont habitués, les forces de l'ordre sont habituées, ils arrivent à gérer. Mais si tu as un accro sur le moment où arrive un tel, mais en fait, de toute façon, les deux clans sont là, prêts à en découdre. Quoi qu'il en soit, alors que ponctuellement ce soir, tu as raison de dire, là en l'occurrence c'est les Lyonnais qui ont attaqué les premiers, mais moi ces histoires de premier, deuxième, j'en ai plus rien à cirer. Je sais de toute façon que si c'est pas l'un, c'est l'autre, machin, de toute façon ça pètera. Et que si tu n'as pas une sécurité hyper renforcée, sur certains matchs, ça peut finir en carnage. Donc on arrête.
On arrête les déplacements.
Après, justement, on va s'arrêter là, les gars. Très vite, Kevin.
C'est quand même particulier pour la Coupe de France.
Oui, pour la finale notamment.
Parce que pour la finale, c'est quand même difficile de ne pas faire de supporter.
Je remercie Mohamed d'avoir été là. Merci beaucoup, Mohamed. Et je te souhaite un bon retour. Il est minuit 18. Dans un instant, retour au sportif. Enfin, avec les drôles de dames, Paulo Breitner, Julien Laurence pour les finales de Cup. Le Bayer Leverkusen fait le doublé également. City a perdu en finale contre United. Julien et Paulo sont là tout de suite. L'after en direct jusqu'à minuit et demi avec Daniel Riolo et Kevin Diaz.
RMC jusqu'à minuit 30,
l'after foot. RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Thibaut Chiangrande.
Avec Kevin Diaz, Daniel Riolo jusqu'à minuit et demi ce soir. Retour au foot. Paulo Breitner, Julien Laurence sont là. Salut les gars.
Bonsoir Thibaut, bonsoir tout le monde.
Ça promet encore dans nos générations after drôle de dame magnifique lundi entre 20h et 22h. Il y a eu des fins de championnat ce soir, notamment en Italie, en Espagne, mais on jouait la Cup. Julien, dans quelques instants, la victoire de United sur City 2-1 aujourd'hui. Mais d'abord,
United commence... qui va donc aller en Europa League.
Exactement, comme
Nice.
Comme Nice.
Et j'attends de voir par quel subterfuge ridicule on va nous faire avaler ce truc-là.
Les Niçois ont dit d'ailleurs aujourd'hui qu'ils étaient en dialogue direct avec l'UEFA. Nous sommes convaincus que nous disposons d'une solution pour la saison prochaine.
Ah, ce qui était Toulouse et le Milan, ça l'a fait. Salzbourg, Leipzig, ça l'a fait.
Ah, Giron, ça l'a fait. En nous faisant avaler des salades ridicules, ça marche toujours.
Ah, ça fait tout le temps. Je voudrais qu'on commence par l'Allemagne. C'était ce soir, Polo. Le doublé donc pour le Bayer Leverkusen face à ce club de D2 qui est désormais Kaiserslautern. Et ça a encore été un match compliqué quand même. Hein.
J'ai presque envie de dire que heureusement que la saison se finit pour les Leverkusen, parce que c'est vrai que ce fut un petit peu compliqué ce soir. Bon, déjà dans la tribune, ils avaient évidemment perdu la rencontre parce qu'ils rencontraient Kaiserslautern, donc les Leverkusen à côté n'existe pas. Mais ça, c'est un petit club par rapport à l'histoire de Kaiserslautern. Mais je vous conseille de voir. J'espère que vous avez vu le tifo qu'a fait Kaiserslautern, qui est magnifique avant la rencontre sur le terrain, évidemment. Une première division contre une deuxième, on n'avait pas vu ça depuis la finale 2010-2011, donc ça a fait un bout de temps, et c'est vrai que ça a été quand même, le premier quart d'heure était pour les Leverkusen. Kaiserslautern essayait de se défendre, était volontaire. Malheureusement, Xhaka marque un super but dès la 16e minute. Et puis, tu te dis, bon, ça va dérouler et ça va se finir. Le problème, c'est qu'on a un joueur qui va pas bien du tout. Et c'est très bien que Julien soit là, parce que lors du match retour, première mi-temps contre West Ham, il y avait un joueur, Kusunu, qui avait été dramatique et sorti par Xabi Alonso à la mi-temps. Là, il a trouvé le moyen de se faire expulser, ce qui a évidemment favorisé un potentiel retour de Kaiserslautern. On a eu une deuxième mi-temps beaucoup plus équilibrée, avec des chances aussi du côté de Kaiserslautern. Bon, force est restée évidemment à la meilleure équipe, Leverkusen, qui réalise une superbe saison et un doublé qui fait du bien. Deuxième Coupe d'Allemagne après 1993, c'était leur cinquième finale. Donc c'était très sympa. C'était pas une grande finale évidemment, parce que les deux équipes n'étaient pas du même niveau, mais le fait que Leverkusen ne joue qu'à 10, ça a permis un peu à Kaiserslautern de jouer son va-tout. Malheureusement, ça n'a pas suffi.
Qu'est-ce qu'on dit quand on pense à la saison prochaine pour le Bayer Leverkusen? Est-ce que ces dernières semaines, ça a mis en lumière des trucs à bosser là en urgence cet été?
Ce que je regrette, c'est que la presse allemande se pose des questions sur ce qu'a fait Xabi Alonso après la défaite et la déculottée subie face à l'Atalanta. Pourquoi se poser la question du faux neuf? Ouais. Pour moi, je sais pas, le boulot d'un journaliste allemand, c'est quand même de comprendre que depuis quelques semaines, Xabi Alonso fait des essais, ça marche pas, pourquoi, comment, et non pas se poser la question de pourquoi un faux neuf après la déculottée, pourquoi est-ce que Grimaldo ou Frimpong ne sont plus positionnés systématiquement en tant que piston gauche ou droit, il y en a plus qu'un sur deux depuis plusieurs semaines, etc. Pourquoi il y a une baisse de niveau de cette équipe et qu'on s'en rend compte qu'après l'Atalanta. Moi, je n'accuse pas les Leverkusen ou Alonso, il a ses raisons. Puis en plus, ça a fonctionné au niveau des résultats. Mais justement, c'est un peu cette myopie du résultat qui a empêché peut-être, j'ai envie de dire, la presse allemande de se dire que finalement, t'avais une sacrée équipe en face et qu'il faut arrêter de penser que cette équipe de Leverkusen est une grande équipe. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait une formidable saison, une grande performance et deux grandes performances. Mais force est de constater que cet été, il va falloir comprendre pourquoi ça s'est entre guillemets un peu s'écrouler en fin de saison comme ça. Quels sont les joueurs qui n'ont pas le niveau pour jouer en Ligue des Champions? On pense que Frimpong va partir, etc. Donc j'aimerais qu'on soit un peu plus actif plutôt que de dire que comme si c'était la coupe était déjà pour les Leverkusen contre l'Atalanta et de se rendre compte après qu'ils sont pris une de culottée.
Bon, au final, la logique a été respectée en Allemagne. Par contre, en Angleterre, Julien, qu'est-ce qui s'est passé? United qui remporte la Cup.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Victoire.
Voilà, grosse surprise.
Ils sont fait chicoter.
Exactement. Effectivement, grosse surprise parce que c'était les parce que City était de loin favori pour un autre doublé, donc ce serait un double doublé finalement, puisqu'ils ont été déjà fait le doublé la semaine dernière et le triplé même. Et on a vu peut-être l'un des pires matchs sur ton première période de Manchester City cette saison au pire moment. Moi, je les ai trouvés un petit peu suffisants d'ailleurs dans leur approche du match, dans leur début de match, dans la tactique de Pep Guardiola qui avait choisi de jouer encore avec Foden et De Bruyne assez axiaux, et tu savais très bien que Manchester United allait jouer avec un bloc très resserré dans l'axe pour justement densifier l'axe du terrain et laisser Guardiola sur un côté, laisser de l'autre côté un Bernardo Silva qui, le pauvre, joue pas à son poste quand il jouait ailier droit comme ça, ou Kyle Walker. Et c'est simplement quand Doku est entré à la mi-temps qu'on a vu un petit peu un meilleur City, notamment à la fin, mais Guardiola s'est trompé. Tant pis pour lui, et Ten Hag pour ce qui serait vraisemblablement son dernier match pour Manchester United. Lui a eu tout bon, ils ont eu beaucoup de réussite sur le premier but, bien sûr, parce que l'erreur est énorme de Guardiola et d'Ortega. Et je pense que sans ce premier but-là, le reste est un petit peu différent, mais le deuxième but de United est magnifique, collectivement. Tout a plutôt bien fonctionné. Bruno Fernandes en faux numéro 9, les mouvements de Rashford, ceux de Garnacho, même défensivement, Varane, Lisandro Martinez, et ça te fait même regretter qu'est-ce qui aurait pu se passer pour United cette saison et pour Ten Hag si Varane et Martinez n'avaient pas été blessés autant. Mais voilà, je pense que la très belle performance de United a aussi bien été aidée par le celle catastrophique, enfin assez difficile on va dire, de Manchester City.
Et Ten Hag à United, c'est vraiment fini alors?
Moi je pense quand même, c'est pas sur un match, ouais, d'aujourd'hui que tu juges une saison ou même deux saisons. Il a dit s'ils veulent plus de moi, j'irai gagner des titres ailleurs parce que c'est ce que je sais faire. Je pense qu'il ira chercher des titres ailleurs alors, parce que ça sera plus le cas. Même si on avait un membre de la famille Glazer, on avait Sir Alex Ferguson qui était là, Radcliffe était là, Brailsford était là, donc on avait vraiment tout le monde à Wembley aujourd'hui. André Onana disait avant le début du match, il disait même si on gagne aujourd'hui, ça ne sauvera pas la saison. Je pense que même avec la victoire, ça sauvera pas la tête de Ten Hag.
À Londres, il y a eu une conso de bière aujourd'hui, c'est à la finale de la Coupe d'Europe de rugby plus ce match là.
C'est à Londres, c'est aussi, un peu chaud aussi, tu sais.
Il y a pas eu de problème. Wembley.
Non, il y a pas eu de problème, il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'embouteillages. On a vu beaucoup le bleu du Leinster, on a vu beaucoup du rouge de Toulouse aussi, et puis le rouge et bleu ciel de City.
Je te dis que les pubs ont tourné taquet.
Ah ça, ouais. Et les hôtels aussi ce soir, Daniel, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde à Londres ce week-end.
Et tiens, juste, il nous reste un peu de temps, Polo, on parlait coach là avec Julien, on en est où de compagnie au Bayern? Ça va se faire?
On a envie de dire qu'on attend l'officialisation. Et moi, je n'ai toujours pas la durée du contrat jusqu'à preuve du contraire. Je viens d'écouter. Alors là, il y a deux choses. Tu vois, je suis en train de regarder un documentaire qui dure 2 heures sur la Nationalmannschaft en 2014. Je vais bientôt arriver au match contre la France en quart de finale. Et il y a une discussion.
Ça devient chiant, en fait.
Non, il y a une discussion, presque une engueulade extraordinaire entre Philippe Lahm et le coach de l'époque, événement Joachim Löw, parce que Joachim Löw avait décidé de jouer avec 4 centraux de formation en défense centrale, avec les latéraux évidemment, Benedikto Vidas du côté gauche, et c'est la discussion est extraordinaire, la façon dont ils se parlent pour faire évoluer, comme par hasard contre la France, Philippe Lahm se retrouvera au poste d'arrière droit. Et
est-ce que Podolski était là pour défendre son ami Joachim Löw?
Lui, il était un peu l'ambianceur hein, dans ces genres de rencontres. Mais ouais, c'est assez extraordinaire le niveau de discussion entre eux, parce qu'ils vous voient et tout ça. Sachez, coach, que je ne suis pas d'accord avec vous, mais quand même, on a besoin d'un latéral, etc. Enfin, c'est assez impressionnant. Moi, c'est ce que j'appelle du vrai documentaire. La deuxième chose, c'est par rapport à Vincent Kompany. C'est intéressant aussi parce que les prises de position par rapport à l'arrivée quasiment de l'ancien international belge, il y a beaucoup de choses. La première, c'est que on sent que Pep Guardiola est passé par là. On ne sait pas s'il y a eu des discussions entre le Bayern et Pep Guardiola, mais apparemment Guardiola aurait donné son accord pour que Kompany soit favorisé au Bayern Munich. Que c'est une décision. Ouais, on va dire il a approuvé. En Allemagne, on commence à dire qu'apparemment il y a eu des discussions, hein, pour savoir où, comment il en était exactement. Apparemment, le directeur sportif Max Eberl poussait pour Vincent Kompany, et dans les bureaux, eh ben ils sont pas tout à fait d'accord. Et notamment une personne qu'on commence à bien connaître, évidemment, c'est Uli Hoeness, parce qu'il a pas de palmarès, parce que ceci. Mais en fait, on partirait sur une logique de quelqu'un qui finalement, en tant que coach, est très doué malgré la descente de cette année avec Burnley, mais qui pourrait recommencer une nouvelle ère et qui surtout serait travailler avec des nouveaux et notamment des jeunes. Donc ça va peut-être impliquer beaucoup de changements dans l'effectif. En tout cas, il y a différentes personnes qui disent comme ça. Ça paraît pas super excitant, Kompany, mais si on écoute Guardiola, c'est peut-être un coach qui va compter dans les prochaines années. Donc on en est là, mais apparemment, encore une fois, à la Zebenerstrasse, tout le monde ne serait pas OK avec cette décision, ce qui veut dire que si c'est un bide, si ça se fait et que c'est un bide, eh ben tu peux être sûr que Max Eberl, il peut faire ses valises, quoi.
On a dit jusqu'en 2027, moi, et 10,5 millions d'euros de compensation financière, qui peut monter un peu plus. Ouais, qui peut monter un petit peu plus.
Merci, les gars.
Bon pari, hein.
Ouais, et plus de détails lundi soir, 20h, 22h. Ciao, Julien. Ciao, Polo.
Ciao, les amis.
On vous retrouve lundi. Merci, Kevin. Merci, Daniel. Ciao.
Salut.
Merci à Toto et à Najib Boulaouine en régie. Merci à vous d'avoir été là au 32-16 sur YouTube, à la radio, tout simplement. L'after revient dès demain soir, 20h, bien évidemment. Bonne nuit, tout le monde. Ciao.
RMC, l'after.